Bonsoir. 121 cas d'atteinte à la liberté de la presse ont été documentés en 2018, dont un emprisonnement, a révélé l'ONG Journaliste en Danger, GED. Dans son rapport publié vendredi dernier à Kinshasa, cette organisation de défense des droits des journalistes indique que 54 cas d'arrestation ou d'interpellation ont également été notifiés. Selon le secrétaire général de GED, certaines personnes abusent de leur position pour commettre toutes sortes d'abus et d'atteintes aux droits et libertés des journalistes. Quelle lecture faire de cette situation de la presse en République démocratique du Congo? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous accueillons Chivis Chivuadji, secrétaire général de l'ONG Journaliste en Danger, GED. Chivis Chivuadji, vous êtes au téléphone, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
André Litté, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste et conseiller juridique au ministère de la Communication et Médias, mais également chargé du monitoring dans les médias dans ce ministère. Et enfin, Emmanuel Kabongo, journaliste et professeur de journalisme à l'Université Pédagogique Nationale UPN, mais également docteur en philosophie politique africaine. Emmanuel Kabongo, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Journalistes et médias sous pression, les élections de tous les dangers, c'est l'intitulé du rapport annuel 2018 de Journalistes en Danger, GED, rendu public vendredi dernier. Ce rapport révèle 121 cas d'atteinte à la liberté de la presse cette année, dont un emprisonnement, au moins 54 cas d'arrestation ou d'interpellation, au moins encore 30 cas d'agression physique et de menaces directes ou indirectes et 37 cas de censure ou de pressions diverses. GED regrette que les prédateurs de ces atteintes aux libertés de la presse demeurent impunis. Chivis Chivuadji, secrétaire général de GED, au micro de Innocent Olenga.
Nous nous sommes rendus compte que l'un des maux, sinon le principal dont souffre notre pays, surtout en matière de droits de l'homme, c'est l'impunité dont jouissent certaines personnes identifiables, qui abusent de leur position pour commettre toutes sortes d'abus et d'atteintes aux droits et libertés des autres, mais qui ne sont jamais inquiétés pour cela. Et cela est particulièrement vrai en matière de liberté de presse et d'expression. Cette journée spéciale nous donne donc l'occasion de rappeler que dans ce vaste pays qui est la République démocratique du Congo, le climat général de travail des journalistes ne s'est guère amélioré au cours de l'année 2018. Et la perspective de l'élection présidentielle, prévue le 23 décembre, dans un contexte de vive tension politique, accroît un peu plus les menaces qui pèsent sur les professionnels de l'information si aucune mesure n'est prise pour faire respecter la liberté de la presse ou renforcer la sécurité des journalistes. Au cours de cette année, donc, et alors que la campagne électorale n'a pas encore commencé, nous avons compté 121 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias en l'espace donc de 12 mois.
Chivis Chivuadji, secrétaire général de l'ONG Journaliste en Danger, GED, y a-t-il vraiment quelque chose de nouveau dans le rapport 2018 de votre organisation, à part le titre par exemple, parce que, sauf mauvaise lecture de notre part, vous rapportez 121 cas d'atteinte, exactement le même chiffre que l'année dernière.
Bien, écoutez, d'abord je pense qu'il faut situer le contexte dans lequel ce rapport a été rendu public. Comme vous l'avez rappelé, nous l'avons rendu public le 2 novembre 2018 et c'est à quelques jours du lancement de la campagne électorale pour des élections qui sont annoncées pour le 23 décembre. Et je rappelle donc que le 2 novembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette journée a été instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies, je le rappelle encore, à la suite de l'assassinat de nos deux confrères de RFI, Ghislain Dupont et Claude Verlon au Mali, il y a donc 5 ans de cela. Et donc, depuis 5 ans aussi, GED a choisi cette date, c'est une tradition pour nous, pour rendre public ce rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse dans notre pays, parce que nous considérons, et cela fait plus de bientôt 20 ans que nous faisons ce travail, que effectivement,
parmi les obstacles, parmi les maux qui rongent notre pays, particulièrement en matière des droits de l'homme. Il y a donc cette question de l'impunité, cette culture de l'impunité. Et donc, nous rappelons aussi qu'au cours des dix dernières années, nous avons connu aussi des crimes qui ont été commis contre des journalistes. Au moins une dizaine de journalistes ont été tués au cours des 10 dernières années, sans compter, à côté de cela, donc toutes sortes d'exactions qui sont exercées sur les journalistes, donc en termes de menaces, en termes d'agressions, en termes d'arrestations tout à fait arbitraires, des médias qui sont attaqués, qui sont fermés, des signaux à des missions de certaines télévisions qui sont brouillées et coupées. Donc, tout cela... mis ensemble, effectivement, nous font dire qu'effectivement la situation de la liberté de la presse dans notre pays elle demeure très préoccupante.
Alors, tu
davantage encore dans cette période de haute tension politique.
Merci, Tivis Tivoadi. Mais comme le disions nous-mêmes, nous avons observé que les chiffres de cette année, en gros, de manière générale, correspondent exactement aux chiffres de l'année dernière. Est-ce que vous n'êtes pas retrouvé là devant un cas de statu quo et en principe vous auriez dû mettre en avant que les choses ont plutôt été maintenues ou ont bougé positivement?
Bien, d'abord il faut pas beaucoup trop mystifier les questions qui concernent les chiffres. Les chiffres que nous donnons, je dois vous dire que c'est vraiment à titre indicatif. Ce sont des cas qui nous ont été rapportés, que nous avons documentés, et donc pour lesquels nous avons diffusé soit des communiqués, soit des alertes. Nous travaillons avec un réseau de correspondants qui sont éparpillés à travers toutes les provinces du pays, et donc très sincèrement, je ne pense pas que les 121 cas que nous répertorions reflètent exactement le nombre d'atteintes à la liberté de la presse qu'il y a eu dans ce pays. C'est pas un chiffre absolu. J'imagine qu'il doit y avoir certainement d'autres cas qui nous échappent, parce que nous ne sommes pas partout, nous n'avons pas de correspondants partout, et que donc il peut y avoir d'autres cas des journalistes qui ont été victimes, mais qui ne veulent pas en parler, ou qui estiment que nous ne devions pas en parler, et nous avons, nous, le droit de respecter le silence des journalistes qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas qu'on dise ce qui leur est arrivé. Et donc, c'est peut-être tout un hasard que nous ayons le même chiffre, mais les chiffres, ce qui est le plus important, c'est que c'est des chiffres qui sont très élevés. 121 cas cette année, 121 cas l'année dernière, et l'année 2016, c'était déjà près d'une centaine de cas. Si vous mettez les trois années ensemble, parce que nous considérons que ce sont des années de crise, des années électorales, vous avez plus de 300 cas d'atteinte diverses à la liberté de la presse, donc c'est énorme. Donc c'est derrière ces chiffres, il faut voir les violences que subissent les journalistes. C'est des hommes et des femmes qui ont été arrêtés, qui ont été attaqués, qui ont été battus à cause du travail. Et c'est de ça que nous parlons, et pas seulement des simples chiffres que nous donnons comme cela.
Alors, nous-mêmes nous le disions tout à l'heure, hein, le titre de votre rapport cette année, « Journalistes et médias sous pression, les élections de tous les dangers ». C'est vrai que nous sommes en période électorale et qu'un sentiment de tension est inévitable. Mais n'est-il pas un peu exagéré de votre part de parler d'élections de tous les dangers?
Ça me fait rire parce que les élections de tous les enjeux, nous disons, à cause des pressions. Vous pensez bien, nous ne sommes pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas encore pendant la période de campagne électorale. Vous menez les trois années ensemble, vous avez plus de 300 cas qui sont liés au contexte politique de l'heure, qui sont liés à la tension qui est dans le pays. Et vous avez là 80% des cas qui sont le fait des personnes identifiables, ça veut dire 80% ce sont soit les services de sécurité, soit les agents de la police et de l'ANR. Ok? Et donc ce rapport pour nous, compte tenu de ces statistiques-là, vient comme une sonnette d'alarme pour dire nous allons entrer dans une zone de grande turbulence politique. Mais nous constatons malheureusement que nous allons entrer dans cette période difficile et qu'aucune mesure n'a été prise pour les journalistes, pour protéger les journalistes ou assurer la liberté de la presse, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan légal, que ce soit sur le plan sécuritaire. Et donc, nous craignons que cette période puisse être une période s'annonce très électrique, hein, je n'exagère rien, tout le monde le voit, et que pendant cette période, à cause de l'impunité ambiante, parce qu'aujourd'hui, vous avez tous les gens des services de sécurité de l'ANR qui peuvent s'en prendre à un journaliste, qui peuvent casser le matériel, qui peuvent fermer, mais ils sont au moins assurés que cela sera sans conséquence. Et donc, nous sommes dans une période de grande intolérance et nous disons, cette impunité, cette culture d'impunité entretient l'intolérance contre les médias et entretient aussi l'insécurité pour les journalistes.
Merci, activiste Tivouadji, André Litté, juriste et conseiller juridique au ministère de la Communication et Médias, mais également chargé du monitoring des médias dans ce même ministère. 121 cas d'atteinte des libertés de la presse, c'est pas terriblement trop pour vous?
Bon, déjà, je vais vous dire que les chiffres 121 ou plus, moins, je ne sais pas, mais sinon, déjà, vous avez vous-même fait un constat, je crois que quelque chose vous a intrigué, certainement aussi tous les auditeurs de la radio Okapi, c'est par rapport au fait qu'il y a cette coïncidence. De l'autre côté, ou sinon en France, on nous parle de faits du hasard, mais nous voyons quand même l'année dernière, c'était 121, cette année, autant. Mais là où n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'à certaines occurrences, je suis peiné lorsqu'on dit les agents de l'honneur, de la police. Venons-en aux faits. Parce que à partir du moment où nous parlons en termes de faits et que nous pouvons dire ça c'est X ou Y, je pense que ça peut aider le pays à avancer. Et aussi, il n'est secret pour personne qu'on se retienne pour dire, autant au Congo que partout à travers le monde, vous n'avez pas une situation paradisiaque en termes de respect des droits de l'homme de façon générale.
Mais ailleurs, on voit très bien que les journalistes ont la liberté de rendre public les faits commis par des personnes.
Vous permettez. D'ailleurs, déjà, si nous partons d'abord, est-ce qu'au Congo, je vous dis évidemment, je pense que vous en tiendrez compte, parce que là, j'étais en train d'agencer, de par notre constitution, la liberté d'expression est garantie. Autant par rapport aux instruments juridiques auxquels notre pays a souscrit. Vous avez le pacte civil relatif aux droits, le pacte relatif aux droits civils et politiques. Et déjà là-dedans, vous avez tout ce que vous voulez. Je pense qu'au niveau de notre constitution, cela a été tout simplement transposé. Même la loi des 96 en RD Congo, qui régit le secteur qui est celui des médias, en parle aussi de façon détaillée. Alors ici, lorsqu'on nous dit, pour ne prendre que des cas emblématiques, m'accorder cette expression.
Allez-y.
C'est par rapport aux journalistes tués, par exemple. Parce que tout à l'heure, j'ai noté des journalistes tués sans que leur bourreau soit inquiété. L'ami d'en face l'a bien dit. Mais nous avons ici, sous nos yeux, un document qui provient des GED, où l'on parle des journalistes tués. Mm-hmm. Si vous voulez, des actions judiciaires menées à la contre de leur bourreau. Mm-hmm. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est GED. Vous aurez à faire le constat, c'est que sur les 10 cas recensés par GED lui-même, dans sa note d'information, 8 cas ont fait l'objet de condamnations judiciaires des auteurs de 10 crimes. Un est en cours de procès en termes d'instruction, et aussi il y a un seul cas qu'on considère au niveau des GED comme n'ayant pas été pris en charge, mais en même temps, ici nous parlons des droits de l'homme. Ce que les gens doivent savoir souvent, c'est que au Congo, on veut que nous nous comportions comme toutes les nations civilisées. C'est que vous avez la séparation des pouvoirs, vous avez tous les trois pouvoirs classiques de l'État, et que par rapport à ces trois pouvoirs classiques de l'État, vous avez le pouvoir judiciaire qui doit administrer la justice dans ces pays. Imaginez-vous un seul instant qu'un juge au Congo ait eu à se plaindre que, par exemple, on lui a demandé par un ministre, prenons même le ministre qui a le secteur des médias en charge, lui a demandé, pas à terme de dénonciation, parce que la dénonciation peut se faire partout, mais qu'on lui a par exemple donné une injonction de poursuivre, si ce n'est pas le ministre de la Justice qui, lui, du moins, peut le faire au regard de ses attributions du point de vue légal. On crierait au scandale. Et si nous commençons à lire, excusez-moi, ça risque d'heurter certaines sensibilités, parce que certains de vos collègues ou de vos confrères auxquels les rapports, la note d'information fait allusion ne sont plus, il y a pas peu Bapoua Mwamba dont les bourreaux ont été condamnés. Il y a eu un procès à bonne et due forme, au premier et au second degré. Vous avez le cas de Serge Maheshe, qui fit radio, un des journalistes de la radio Okapi, que moi je suivais lorsque j'étais encore étudiant à l'université Lubumbashi. Paix à son âme. Vous avez Didas Namujumbo, celui-là aussi. Vous avez Patia Chebeya Bakome. Vous avez Witness, il y a au moins ce cas ici de Witness qui n'a pas été élucidé. Vous avez Guilé Djabo, vous avez Kennedy Germain, vous avez Mumbere Muliwai, vous avez Robert Chamushiba. Non, écoutez, le Congo n'est pas aussi une affaire comme on veut bien le présenter. Moi, je comprends mon aîné d'en face, dans son rôle d'alerte, ce qui est une très bonne chose. Mais dire que, à la matière, le gouvernement ou les autorités locales, parce que quand vous lisez la note d'information, on fait allusion. Non, ce n'est pas question des autorités locales ou des autorités à quelque niveau que ce soit, si ce n'est autorité attendue de façon précise comme autorité judiciaire.
En réalité, permettez-moi de prendre la parole à ce niveau, mais si j'aide. Parle par exemple d'impunité, je crois que ça, le fond de sa pensée est que la plupart de ces procès, la plupart de ces actions judiciaires ont régulièrement été contestées, ont régulièrement été présentées comme factices et peu crédibles.
Bon, alors à ce niveau-là, je ne sais pas, parce que faut-il encore nous dire telle ou telle autre action n'a pas été bien menée au regard de tel ou tel autre fait. Parce que, par exemple, ici, je vous parle du cas de Ba Poamouama, qui a été tué. Il y a eu un procès au premier degré jusqu'au second degré. De par le monde, vous avez seulement le principe du double juridiction,
oui.
Double degré de juridiction.
Je peux vous ajouter d'autres cas.
Voilà,
il y a
Franck Guiquet,
voilà. Il y a Ba Poamouama que vous avez
voilà.
Assisté.
Même Franck Guiquet, je me rappelle à l'époque.
Les deux confrères de Radio Okapi, voilà. Tous ces procès ont tous été très contestés. Les organisations des droits de l'homme n'ont jamais accepté les verdicts.
Je vais vous dire, cher ami, les organisations des droits de l'homme. Je vais bien, moi-même qui vous parle, je fais même une spécialisation en droit de l'homme. Vous savez, il y a toujours problème. Dans ces pays ou ailleurs, il est arrivé que les gens documentent. Moi, je suis organisation des droits de l'homme parce que lui, il dit, il travaille à partir de Kinshasa, il a des correspondants. Je vais vous donner un cas qui pourrait vous étonner.
Allez-y.
C'est le cas de Germain Katanga. Les organisations des droits de l'homme, avec à la tête desquelles vous avez Human Rights Watch, l'acquise, on l'amène à la CPI. Vous savez que le gars à la CPI a été acquitté? Parce que quand les gens écrivent, vous ne savez pas quand qu'ils écrivent, ils écrivent quoi à terme des faits. Alors c'est toujours bon bien de lire ceci ou cela. Je ne voulais pas vous citer d'autres cas de gens qui ont été amenés à la CPI parce que les ONG ont écrit, une fois maintenant face au procureur, une fois que ça devient contradictoire, ça pose maintenant problème. Je vais vous donner le cas des journalistes.
Merci, André.
Vous permettez, je voulais préciser. Je voulais illustrer ici un cas du gouverneur du Kassai.
Oui.
Victime d'imputation dommageable d'un journaliste. Au moins celui-là, il a référé à la justice. Et ça, vous le rappelez, je crois que vous en avez été informé. Si vous voulez, la corporation journalistique débarque en mouvement auprès de cette autorité pour se saisir d'affaires et lui retire la paix. Vous savez qu'au niveau même du tribunal des pairs, ce journaliste-là a été convaincu des faits qui lui ont été reprochés et il a été suspendu. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tout en déplorant les voies de fait de certains d'entre ceux qui se comporteraient ici, parce que jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas eu procès, il n'y a pas eu...
Et
si vous voulez, moi je m'aimerais, nous aimerions, nous en appelons à un comportement responsable dans les chefs et des ONG et de ceux qui se disent victimes. Parce qu'à certaines occurrences, il se peut que nous soyons face à des situations où les gens, parfois, pour se faire vedette, disent qu'elles ont été victimes de ceci ou cela.
Merci.
C'est comme ça que nous disons,
merci,
il faut
André.
Référer à l'autorité judiciaire qui est la seule compétente de connaître de toutes ces questions.
Merci André Litté, on reviendra à vous pour de plus amples explications. Emmanuel Kabongo, journaliste et professeur de journalisme à l'Université Pédagogique Nationale UPN, mais également docteur en philosophie politique africaine. Votre lecture de ce rapport 2018 de GED et de manière générale de la situation de l'exercice de la presse en RDC. Avez-vous l'impression qu'on avance, qu'on recule, ou peut-être un peu comme cette année, selon les chiffres, on fait un peu du surplace?
Merci beaucoup. Moi, je voudrais plutôt prendre la parole pour remercier GED. Voilà une organisation qui, depuis une vingtaine d'années, publie de façon très régulière des rapports assez documentés, parce que depuis que GED publie ces rapports, il y a eu très peu de contestations. Et que je souhaiterais que, et ça m'amène à penser qu'une société n'évolue que parce qu'il y a des gens qui agissent. Et dans notre pays, je crois que le travail que GED fait mérite des fleurs et que les cris d'alarme de GED sur les élections de tous les dangers signifient simplement que les élections ne sont considérées comme démocratiques, crédibles et est valable si les journalistes ont pu fonctionner en toute liberté, ont pu avoir l'information, ont pu la diffuser, ont pu donner, n'est-ce pas, donner au peuple, donc aux électeurs, des informations fiables pour les éclairer. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est qu'à quelques semaines, quelques mois, un mois, je crois, des élections générales, présidentielles, législatives nationales et provinciales, il y a encore cette recrudescence, cette récurrence, n'est-ce pas, des maltraitances des journalistes, des arrestations, des inquiétudes. Parce que quand on entend, on dit par exemple que non, les journalistes ont été inquiets, les gens ont l'impression que ce sont des petites choses comme ça qui passent. Non. Moi, j'ai suivi des témoignages. C'est-à-dire, des journalistes sont tabassés, on arrache leur outil de travail, ils sont blessés. J'ai suivi le cas d'Edmond Izouba de RTVS 1. Mm-hmm. Il est juste allé à la messe pour voir ce que les gens du comité laïque disaient. Il a été tabassé, il s'est retrouvé avec des côtes pratiquement fracturées. Mm-hmm. Donc, ce sont des choses intolérables, ce sont des barbaries. Et je crois que même si parfois on traite ces choses avec une sorte de légèreté en disant non...
Il n'y a pas eu mort, donc...
Oui, c'est vrai qu'on doit remercier, on dit, j'ai de là toujours dit, ces trois dernières années, il n'y a pas eu d'assassinat des journalistes. C'est déjà beaucoup. Mais de toutes les autres souffrances qui sont menées, qui subissent les journalistes, méritent d'être relevées. Et je crois que s'il n'y avait pas GED dans ces pays, s'il n'y avait pas cette organisation de jeunes gens, des jeunes que je connais bien, qui ont pris sur eux de documenter au prix de leur vie toutes ces histoires, je crois que notre métier n'aurait pas beaucoup avancé. Et je souhaite même que, aujourd'hui que j'ai 20 ans, je crois que d'ici le 20 novembre, j'ai de 20 ans, je souhaiterais que toutes les professions au Congo, que ce soit le footballeur, le batailleur, le photographe, que toutes ces organisations puissent se constituer, n'est-ce pas, des associations aptes à monitorer les difficultés, aptes à discuter, à faire un certain syndicalisme. Aujourd'hui, moi, je me dis, dans notre pays, il y a une certaine apathie au niveau national parce que les gens ne sont pas capables de prendre en charge leur travail. Moi, je donne un exemple très simple. Quand je marche sur le boulevard ici, je regarde toutes les entreprises sur le boulevard ici, mais c'est 25 mois d'arriéré de salaire. 30 mois d'arriéré des salaires. Je peux même citer une entreprise comme la Société Nationale d'Assurance, où je connais très bien. Mais allez demander à la TMB qui paye le salaire des agents de l'assurance. On va vous dire, le dernier salaire payé a été celui d'octobre 2015. C'est-à-dire, quand les gens ne sont pas capables de prendre leur vie en main, c'est-à-dire leur vie, ça dit quoi? Leur salaire, leur travail, le soin de leurs enfants, parce qu'ils ne sont pas payés, ça signifie que la société va mourir. Et c'est pour cela que moi j'ai dit, GED est une pour moi c'est une entreprise d'avant-garde.
Alors Emmanuel Kabongo, vous l'avez signalé tout à l'heure, il faut se féliciter qu'il n'y ait pas eu mort d'homme, mort de journaliste ces dernières années.
Il y en a eu beaucoup, mais il y en a eu même trop.
Mais doit-on aussi un peu se féliciter que les chiffres n'aient pas évolué exponentiellement et que ça s'est s'est stabilisé les deux dernières années ici à 121-121.
Quand on dit qu'un journaliste a été... Je peux te citer un certain nombre de cas. Vous verrez que la souffrance humaine est trop forte. Je cite le cas d'Edmond Izouba. Mm-hmm. Je cite le cas je ne sais pas moi, de notre ami Eliezer Tamboué.
Parce que dans le cas a été évoqué
avec le Kassai. Il est descendu au Kassai pour avoir un deuxième son de cloche. Mm. Parce que c'est ça ce qu'on appelle l'équilibre d'une information. Mm. Et là, on l'a pris, on l'a arrêté, on l'a amené à Makala directement. Mm. Dites-moi un peu, dans quel pays est-ce que parce que lui, ça a écrit quelque chose, on le met directement en prison? Pourquoi est-ce que dans tous les autres pays, même au Congo-Brazzaville, ici, il y a la dépénalisation du délit de presse?
On lui reproche d'avoir fait du chantage au gouverneur.
Écoutez, il est allé voir le gouverneur. Mais quand vous avez une information, c'est ce que nous enseignons dans nos universités, quand ce qu'on appelle le deuxième son des cloches, on fait l'information à charge à décharge. On a dit que M. Kabongo a volé, je crois, voilà. Mais avant de publier cette information, vous avez le devoir journalistique de poser la question à M. Kabongo. Monsieur Kabon, voilà, j'ai toute une documentation ici sur tes vols irréguliers. Est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie? Et monsieur Kabon a le droit de se défendre. Et vous avez le devoir, vous journalistes, de prendre tous en compte.
Alors, Emmanuel Kabongo, professeur, y a-t-il quand même des cas où on peut reconnaître aujourd'hui que des journalistes ont eu tort et ils ont été poursuivis quand même légalement?
Vous savez, le métier des journalistes, c'est le seul métier dans ces pays où ils ont ce que vous appelez le tribunal des pairs. Mmh. C'est-à-dire des gens qui sont capables de vous mettre là devant, de vous dire que vous, là, vous êtes minable, vous ne faites pas un bon journalisme, et de vous suspendre, de vous arracher la carte de presse. Dites-moi un autre métier dans ces pays où tes pairs peuvent se mettre devant et t'arracher la carte de presse. Mmh. Très peu. Donc, moi, j'estime que... Et puis, la loi que tu vois, là, nous avons, le maître l'a dit, le journalisme dans notre pays est constitutionnel. C'est l'article 24 de notre constitution qui dit... Chaque Congolais, chaque homme a le droit d'écrire, de diffuser. Et aucune interdiction. La seule interdiction, c'est quoi? L'ordre public.
Merci Emmanuel Kabongo. Nous revenons à vous tout à l'heure. Tivis Tivadi, pour vous, ce commentaire qui nous vient de Kisangani, et ensuite vous pourrez rebondir à votre tour aussi.
Olin Sengangabo, je vous appelle depuis la ville de Kisangani, province de la Tchopo. La majorité des journalistes aujourd'hui ne respectent plus la déontologie professionnelle. Ils se basent plus aux informations qui parlent plus de la négativité du régime en place. Bien sûr, le droit de liberté et d'expression est garanti. Mais sachez bien que le droit de suspendre ou d'arrêter les journalistes qui va à la contre de la loi est aussi garanti qu'entassé. Actuellement, certains journalistes se transforment à l'opposition contre le pouvoir en place et cela est contraire à la déontologie professionnelle du journalisme. En résumé, les journalistes qui sont arrêtés outrepassent leur métier selon les normes de la déontologie professionnelle, d'autant plus que toute arrestation qui est faite aux journalistes est conforme à la loi.
Tivadi, Paulin de Kisangani pense qu'il n'y a pas que les services publics et les autorités qui ont tort. Il estime que les journalistes commettent aussi des erreurs et que de temps en temps, ils doivent être sanctionnés pour cela.
Bien, je pense que le professeur Emmanuel Kabongo a répondu à cette question-là pour dire que le métier de journaliste, c'est un des rares métiers dans ce pays qui sont organisés par des textes qui s'exerce un certain nombre de principes et de règles qui ont été édités par la profession elle-même. Lorsque votre auditeur parle du code d'éthique et de déontologie, je pense qu'il n'y a personne qui est mieux placé que les journalistes eux-mêmes pour connaître leur code d'éthique et de déontologie, que nous appelons d'ailleurs notre code d'honneur, parce qu'il a été rédigé par des journalistes et pour des journalistes. Et donc, en matière d'éthique et de déontologie, il n'y a que les journalistes pour connaître des manquements que d'autres journalistes peuvent commettre par rapport à leur éthique et déontologie. Et il vous a dit que il existe des structures qui sont mises en place au niveau de la profession et qui sont compétentes pour connaître effectivement des manquements qui sont liés à l'éthique et la déontologie. Mais les rapports que j'ai de public, et ça je peux vous certifier, que dans tous les cas que nous répertorions, nous ne connaissons pas un seul cas d'un journaliste qui a été arrêté, qui a été menacé parce qu'il a mal fait son travail. Dans tous les cas particulièrement, presque, ce sont des gens, comme nous a dit tout à l'heure, ce sont des gens qui abusent de leur pouvoir ou de leur position pour s'en prendre à des journalistes parce que telle information ou telle émission n'en pas plus. Et alors, on vient, on menace, on interdit un média. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc les journalistes, dans ces cas précis, sont des victimes. C'est des victimes pour lesquelles on ne peut pas demander ou essayer de retourner la question pour dire que non, ils ont été arrêtés parce qu'ils auraient commis telle ou telle faute. Et même alors, s'il y a des fautes dans le chef des journalistes, il n'appartient pas à quelqu'un parce qu'il est de l'ANR ou de la police de se rendre justice. C'est ce que nous dénonçons justement en tant que violation.
Alors,
je voudrais revenir sur un certain nombre de questions qui ont été soulevées par le conseiller. Je suis au moins content de constater qu'il a quand même peut-être jeté un coup d'œil dans notre rapport. Je voudrais le rassurer que, en principe, le travail que nous faisons ne laisse que très peu de place à la polémique. Parce que les cas que nous dénonçons, ce sont des faits avérés. Nous donnons des noms, des dates et des lieux où se sont commis les atteintes que nous dénonçons. Le rapport que nous publions, ce n'est pas un livre que nous éditons. Il s'agit tout simplement d'une compilation des choses que nous avons enregistrées au cours de l'année pour lesquels, en temps réel, nous avons diffusé des alertes ou de communiqués. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ce rapport nous permet simplement de mettre les choses en perspective, d'évaluer, de voir s'il y a des avancées ou s'il y a des reculs sur tel ou tel domaine et quelles sont les tendances qui se dessinent.
Alors,
deuxièmement, je voudrais aussi le rassurer pour dire...
Très rapidement.
Que... Effectivement, il a raison de dire que la liberté de la presse dans notre pays, elle est reconnue, elle est garantie. Mais justement, ce que nous déplorons, c'est le fait que, en dépit de ces garanties constitutionnelles à la liberté de la presse, nous ayons chaque année autant de cas d'atteinte et de violation, et que ces personnes qui violent la loi parce que la Constitution garantit la liberté de la presse, que ces gens-là ne soient pas inquiétés. Pour, en ce qui concerne les cas d'assassinat, peut-être tu n'as pas très bien lu notre rapport, nous avons dit, il y a une dizaine, presque 12, on peut dire 12, et que sur la douzaine de cas, il y a à peine 3 ou 4 qui ont été, qui ont connu des procès, je veux dire des parodies de procès. Parce que, comme vous avez rappelé, nous avons eu à contester le verdict de ce procès parce que nous avons dit que ce sont des procès qui ont été organisés sur des enquêtes qui ont été sciemment bâclées et qui n'ont pas permis de savoir quels étaient les véritables commanditaires de ces assassinats et quel était le véritable mobile.
Merci, tu vis, tu vas dire.
12, il y a eu à peine 4. Et sur ces 4, donc, on ne sait pas aujourd'hui, jusqu'à présent, pourquoi ces journalistes ont été tués. Et moi, je voudrais dire... Vous savez qu'il y a plusieurs façons d'assurer l'impunité d'un crime. C'est soit qu'on ne fait rien du tout, et dans la majorité des cas, sur les 12, s'il y en a eu 3 ou 4, ça veut dire dans la majorité des cas, il n'y a même pas eu un début d'enquête. Et là où il y a eu des procès, on s'est arrangé pour faire justement des procès bidons.
Merci.
Pour que jamais on ne puisse connaître les véritables commanditaires et les motifs.
Merci.
C'est une façon d'assurer aussi l'impunité de ces crimes.
Merci, Tivis Tivoadi. Nous viendrons à vous pour les derniers mots. André Litté, monsieur le conseiller, pour vous, ce commentaire qui nous vient aussi de Kisangani, ensuite, vous pourrez réagir à l'ensemble des choses qui vous tiennent à cœur.
Zachary Kinombe dans la ville de Kisangani. La situation de la presse et des journalistes en République démocratique du Congo est très préoccupante. Et d'ailleurs, le chiffre avancé par le GIED ne reflète pas l'ampleur de ces faits qui restent et liberticides, voire démocraticides. Dans le Congo profond, où il y a des radios communautaires, la situation est beaucoup plus alarmante. Les autorités politico-administratives intimident, matraquent et empoisonnent injustement les journalistes. Ces comportements de la part des dirigeants et des forces de l'ordre enlèvent le doute pour ceux qui n'admettent pas que les Congolais sont en train de vivre une véritable démocratie.
Alors André Litté, Zachary peut-être avoir mis un peu de sentiment, mais je peux vous garantir qu'il y a des cas en province, notamment ce cas que vous ne connaissez peut-être pas, mais peut-être que vous connaissez, ce journaliste d'Africa News Télévision qui a été fortement intimidé pour avoir écrit un article sur l'ICCN.
Non, moi je vais vous dire ceci, cher ami, que nous ne disons pas que le Congo est un paradis. Vous savez, en criminologie, il est reconnu que les crimes sont un effet social. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer dans une société un état parasitaire des choses. Il est possible, même à l'état, ou même au moment où nous parlons, que dans notre état, ici à côté, il se passe quelque chose contre les journalistes. Il y est peut-être aussi à ce métier des journalistes, parce qu'il faut toujours faire la part des choses. Le fait pour quelqu'un ou un criminel, parce que moi je considère ceux qui se comportent ici comme des criminels, de s'apprendre à quelqu'un parce que il a dit quelque chose qui ne l'a pas arrangé. Et aussi parce qu'il est journaliste, parce que c'est à l'occasion de ses prestations comme telles. Mais en même temps, ce que nous disons, ici je voulais d'abord préciser une chose. Les documents que j'ai sous mes yeux, c'était documents des journalistes en danger.
L'organisation GED.
L'organisation GED. C'est que quand nous parlons des 10 cas ici, c'est même les mots qui sont là, ce sont les mots de GED. C'est pas nous, parce que moi, je n'amène pas ça du ministère des médias.
Vous n'êtes pas d'accord avec les éléments supplémentaires apportés par Thierry?
Non. D'ailleurs, je voulais aussi préciser.
Allez-y.
Tout à l'heure, le prof Cabon, je connais, à l'époque, je l'ai suivi encore dans des débats avec quelqu'un qui est parti aussi de Télé-Sec. C'est là que moi, je l'ai découvert comme émissier qui allait franc-parler. Est-ce que je voulais aussi dire, tout après là, le prof Atemol, lorsqu'il dit, bon, j'ai des faits, un travail formidable. Moi, je voulais d'abord commencer par me poser la question, même par rapport à la forme, s'agissant des GED.
Que reprochez-vous à la forme, de manière rapidement?
Par rapport à la forme, c'est dire ceci. Tout à l'heure, le prof a relevé un fait très important. Ça, ce n'est pas seulement dans les domaines journalistiques, mais même dans bien d'autres domaines de la vie. Où, lorsque vous avez des faits que vous reprocheriez à quelqu'un, de l'approcher et que ce soit contradictoire. Est-ce que, par exemple, dans cette méthodologie, par rapport aux différents cas, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de cas, est-ce que Jedaï a mené un travail quelconque pour écouter également ceux qui sont accusés par les journalistes? Ne serait-ce que pour aider, parce que moi je pense que le rôle des jeunes devrait être un rôle pédagogique, ils s'essaient peut-être dans ce sens, bon, on me dira ils ont fait 20 ans et moi j'ai fait combien, ce n'est pas là le problème, le débat est permanent, mais est-ce que par exemple il arrive dans la corporation des journalistes que j'aide se fasse éviter et dise aux amis, voici comment un journaliste on peut être en sécurité, parce que ce débat ici, par rapport au secteur qui est le vôtre, mon cher ami, même en France aujourd'hui, l'une des meilleures démocraties au monde. Il y a débat. Vous avez toujours des gens qui disent que bon, les médias. Mmh. Et mais, les médias aussi,
le aux États-Unis,
ne pouvaient pas en parler parce que Donald Trump, à un moment donné, même les sondages disaient de Trump tous les mots du monde. Vous le savez certainement, mais quand on fait, cela a été prouvé autrement. Mais sinon, moi, je ne dis pas que pour autant, un journaliste devrait payer de
sa vie. Concluez votre pensée en
Oui, alors ce que je vais dire concrètement, moi, je veux qu'à terme de méthodologie, parce que par exemple, une fois, c'était l'année dernière, j'ai épinglé le ministre Mène, je ne suis pas là pour, évidemment, l'innocenter, mais je prends aussi ce cas-là comme emblématique. Et vous savez ce que j'ai des reproches au ministre Mène? C'est le fait que le ministre Mène ait obtenu de RFI un accord avec un certain nombre de médias congolais, comme nos amis de la Voix de l'Amérique l'ont fait avec certains médias, Kokira ou Vôtre. Et j'ai déjà trouvé ça, qu'il y avait un problème, et que pour autant, c'était une atteinte à la liberté de la presse. Mais en même temps, si vous partez d'ici pour Paris,
merci,
pour New York,
merci,
ouvrir les médias, vous n'allez pas les faire comme, qui dirait, à la va-vite. Alors, merci. À un moment donné, nous devons savoir ce que nous voulons. Moi, je signe et je persiste, notamment à terme de méthodologie, il y a problème. Je ne dis pas que tout ce que je dis est faux, mais ce que je dis...
Il y a problème dans la méthodologie, merci, on retiendra ça parce que vous avez débordé en termes de répartition de paroles. Et pour le professeur Emmanuel Kabongo, cette réflexion de Bukavu, Isaac, qui nous interpelle.
Isaac Bampori de Bukavu au Sud-Kivu. Les journalistes en danger ne sont pas condamnés à demeurer en danger ou à rester des fois faciles à capturer. Le climat tumultueux dans lequel ils travaillent devrait les pousser à prendre des mesures de défense. Par exemple, l'obtention par des maisons de presse de l'autorisation d'achat d'armes à feu pour leurs journalistes.
Professeur?
Oui. Merci beaucoup, Isaac. Je crois que c'est une solution assez radicale. Mais je voudrais quand même revenir... sur des petites choses et que on ne doit pas se fermer les yeux. L'information aujourd'hui, c'est connu, constitue l'énergie pour une nation, pour un pays. On sait que les pays les mieux informés sont des pays qui se développent assez vite. Le problème de notre pays est que il y a des problèmes d'accès à l'information. Il y a longtemps que j'ai des débats pour que la loi
d'accès à l'information.
Oui, non, l'accès à l'information. Mm-hmm. Justement, la loi est déjà au niveau du Parlement et ça fait 2 ans que la loi n'a pas. Elle est déjà faite, déjà traitée. Elle est au niveau du Parlement. Vous voulez quand même que cette loi puisse permettre aux journalistes, parce que tous les cas que nous connaissons aussi sont des cas d'accès à l'information. Mm. Un journaliste cherche une information, il arrive chez une autorité publique. Si l'autorité publique ne se sent pas obligée de donner cette information, l'autre est en train de faire, n'est-ce pas, des conjonctures. Donc, il faut, y a nécessité que dans ces pays-là, nous puissions avoir une loi d'accès à l'information qui est déjà faite, qui est déjà au niveau du Parlement et qu'elle puisse être libérée. Parce que l'information aujourd'hui constitue l'énergie dynamisante pour une société. Ce sont des peuples qui sont les mieux informés qui se développent. Donc, si les gens n'ont pas d'accès à l'information, le peuple ne sera pas bien informé. Et puis, je voudrais aussi dire une chose, c'est que dans tous les pays du monde, même le Congo-Brazzaville à côté, même la Centrafrique où il y a la guerre, il y a la dépénalisation du délit de presse. Tous ces pays-là ont dit, on ne peut pas emprisonner un journaliste parce qu'il a écrit ça. Ce n'est pas une arme, il n'a pas tué. D'autant plus que la loi que nous avons aujourd'hui, notre loi structurelle, donne une réponse. On dit, tout homme qui est cité dans un article de presse pour imputation dommageable a le droit de réponse. C'est-à-dire, les journalistes doivent pouvoir les recevoir, si c'est à la télé, si c'est à la radio, même...
Pour recueillir sa version des faits.
Non, non. Pour son droit de réponse, c'est-à-dire, on dit, qu'est-ce que... On t'a cité, oui, que tu n'es pas content, c'est vrai. Tu dis quoi? Vous lui donnez une page entière. Si vous l'avez amputé sur une page entière.
Oui, n'est-ce pas?
Donc aujourd'hui, il est temps que nous puissions dépasser ces stades où les journalistes sont emprisonnés Zonga, le fini, c'est Zonga qui est emprisonné.
Professeur, oui. Nous sommes en train de conclure notre émission.
Alors, je voulais dire à notre ami Bamporiki que le journalisme ne se fait pas avec une arme à la main.
D'accord.
La seule arme que nous avons, c'est les bics, comme nous disons, c'est la parole.
Alors, Bamporiki, professeur, et ça sera votre conclusion, le dit peut-être en pensant que le journaliste a droit à se protéger ou à être bien protégé.
Notre protégeur, c'est le professionnalisme.
Et puisque j'aide évoque des pressions énormes en cette période électorale, ce serait quoi la meilleure façon pour le journaliste de se protéger ou de rester hors d'atteinte pendant cette période.
De bien faire son travail. Nous avons un métier. Vous savez, le journalisme, c'est un métier, c'est-à-dire c'est un ensemble de règles qu'on peut apprendre et qu'on doit maîtriser. C'est une profession aussi, parce qu'elle est protégée par un ensemble de réglementations internes et externes qui vous disent, parce que nous mettons la vie des gens en danger. Il y a la déontologie là pour nous encadrer. Donc, c'est aussi un engagement, parce que nous nous engageons à quoi un journaliste? Un journaliste s'engage à ce que les biens communs, c'est-à-dire ça notre pays, les biens communs, l'intérêt général soit respecté. Nous sommes les chiens de garde.
Merci.
Donc, si vous voulez faire votre travail, respectez les autres.
Merci.
Faites votre travail de façon professionnelle. Et je crois que
ça ira mieux.
C'est ce que nous avons toujours dit.
Merci, professeur. Comme mot de conclusion aussi, le conseiller André Litté, comment on pourrait éviter ces chiffres énormissimes des journalistes atteints, menacés, ou cette polémique qu'il y a avec les accusations envers les autorités?
Non. D'abord, moi, ce que je voulais dire, une autorité n'est pas un saint. Ça, c'est clair. Il se peut que quelqu'un qui est autorité abuse de sa position. Déjà, comme auxiliaire de la justice, je suis bien conscient de cette réalité. Mais ce que nous voulons, et moi je voulais d'ailleurs profiter de cette occasion pour exhorter
nos amis des
GED. Oui. Nos amis des GED devront aider. Parce que les journalistes dans un pays, comme le grand frère l'a dit, je ne voudrais pas rappeler l'histoire, même le Congo ici, pour qu'on sache que la colonisation est passée parce qu'elle était abominable. Un journaliste qui a alerté le monde. Nous voulons que chaque fois qu'il y a des faits, on ne peut plus clair, établi comme tel, que GED s'implique même dans des procédures, puisse même se constituer comme un parti civil, puisse même exhorter les journalistes qui hésitent à dénoncer,
à le faire,
parce qu'à ce moment-là, le pays en sortira grandi. Qu'est de croire qu'un chef de quartier peut répondre à une telle préoccupation, un gouverneur futile ou un ministre futile de médias comme les nôtres? Non, ce n'est pas dans ses attributions, c'est qu'ici, il faut plutôt continuer
à dénoncer,
à exhorter, à dénoncer, et aussi à encadrer les journalistes qui voudront bien porter plainte et les cas échéants.
Merci André Litté. En quelques secondes, Tivis Sivadi, vous avez épinglé la pression ou les tensions énormes sur les épaules des journalistes. Comment peuvent-ils très rapidement s'en défaire et les éviter?
Non, mais je ne voudrais pas d'abord laisser dire au conseiller, parce qu'il a sciemment déformé la vérité en ce qui concerne le cas du ministre Mende, que nous avions indexé dans notre rapport de l'année dernière. Ça n'a jamais été pour avoir signé un quelconque contrat avec RFI. Ce serait vraiment un non-sens que nous puissions l'indexer justement pour ça.
Merci, concluez.
Le ministre Mende, d'ailleurs, qui est sous le coup des sanctions de l'Union européenne, c'est pour ses multiples entraves au travail de journaliste.
Merci à tous les trois d'avoir participé à notre émission. Alain Irung, Guy Maté, Guy Pela Mondo et Alain Ngoï ont participé dans cette émission pour m'aider à le présenter. Donamadimba, c'est moi. Au revoir. À bientôt.